Chapitre 4. Depuis la mémorable journée de Chatelune, un mois s'était écoulé. Mois pénible pour Julie, qui ne pouvait s'accoutumer à l'absence de son oncle. La maison lui semblait vide, bien qu'une joyeuse troupe d'enfants la remplît comme toujours. Elle ne regardait jamais sans un douloureux tressaillement la fenêtre devant laquelle le vieillard avait travaillé pendant de si longues années. Afin que personne ne s'assît à cette place consacrée par son souvenir, elle y avait mis une petite table chargée de hautes plantes en pot qui faisait de cette embrasure comme une sorte de bosquet et, chaque matin, elle consacrait un grand moment de sa journée, déjà si remplie, à soigner ce jardinet avec la sollicitude attendrie qu'on vouerait à une tombe. La sage et forte Julie ne se reconnaissait plus elle-même. Troublée par toutes sortes de regrets, privée des conseils qui avaient été son appui, elle devenait hésitante et timorée. Son expérience, son bon sens pratique ne lui inspiraient plus aucune assurance. Il lui semblait qu'elle eût à recommencer la vie. Depuis le jour de la séparation, elle avait peu vu son oncle. Il semblait qu'une fatalité obstinée et méchante les empêchât de se rejoindre. Il est vrai que lorsque la fatalité prend les traits d'une dame Judith, on a du mal à la vaincre. Julie s'était chargée de tous les tracas du déménagement et avait elle-même installé le vieillard dans la chambre spacieuse et gaie que son hôtesse lui cédait. Mais leurs adieux, que la jeune fille eût voulu sans témoin, avaient été gâtés par la présence obsédante de Madame Fèvre. Et dès lors, mille obstacles venaient à la traverse de leurs désirs. Ils n'avaient pas eu un instant de tête à tête. Au matin qui suivit le déménagement, Julie s'éveilla la tête lourde et sous une vague impression de tristesse. Sa première pensée fut « Ah, ce n'était qu'un rêve !» Mais le sentiment de la cruelle réalité revint comme une flèche aiguë et la pauvre Julie se mit à pleurer. « Il faut que je le voie ce matin même, » pensa-t-elle, « et que je sache comment il a passé la première nuit. » Aussitôt donc que ses devoirs de ménagère le lui permirent, elle prit son chapeau et sortit. En passant devant le jardinet, elle cueillit sur le plus beau des rosiers une fleur magnifique, une rose de la malmaison qui s'était entr'ouverte à l'aurore et dont la nuance délicate était encore relevée par le vert sombre de son feuillage lustré. « L'oncle sera content de me voir de si bonne heure, » pensait Julie, tout en marchant d'un pas alerte. « Je suis sûre que mon baiser du matin lui manque. Le bon café et le pain blanc de tante Judith ne remplaceront pas ça. » En arrivant à la maison qu'habitait Madame Fèvre, la jeune fille leva les yeux vers la fenêtre du coin, espérant presque y apercevoir la bonne figure du vieillard, la saluant d'un sourire. Mais les rideaux étaient encore baissés. « Serait-il malade ?» se demandait Julie en montant l'escalier avec un battement de cœur. Madame Fèvre était dans sa cuisine lorsque la visiteuse entra. Elle l'accueillit par un chut impératif qui accrut l'anxiété de Julie. « N'est-il pas bien ? » fit-elle à voix basse. « Pas bien ? Je voudrais savoir pourquoi. L'air est aussi bon ici qu'au Pré-Bertoux, je suppose. Ses rideaux sont encore fermés. C'est qu'il dort. À son âge, on n'est pas tenu de se lever avec des alouettes et je compte bien qu'à l'avenir, il jouira de son repos du matin aussi long qu'il voudra le prendre. Je ne suis pas pressée, moi. Et puis, nous n'avons pas d'enfants dans la maison pour faire un vacarme à réveiller les morts. » Cela fut dit avec une pointe de méchanceté que Julie sentit bien. Mais elle n'avait pas le cœur à la riposte et elle dit seulement, en prenant un siège qu'on n'avait pas songé à lui offrir, « J'attendrai que l'oncle se réveille. Comme tu voudras. » Mais au bout de 10 minutes, la jeune fille eut un remords de rester là inactive quand il y avait tant de besogne à la maison. « Je reviendrai ce soir, » dit-elle en se levant. « Ayez l'obligeance de donner à mon oncle cette rose que j'ai cueillie pour lui. » « Est-elle assez belle ?» fit tante Judith d'un ton radouci en plaçant le mignon bouquet dans un verre d'eau. « Tu as de la chance avec les plantes, Julie. Moi, je n'ai jamais fait prospérer qu'un cactus. » « Cela ne m'étonne pas, » pensa Julie. « Le terrain doit être bon ici pour toutes les plantes à épines. » mais elle garda sa remarque pour elle seule et se dirigea vers la porte. Comme elle mettait la main sur la serrure, un bruit léger lui fit tourner la tête. La veuve était renversée sur la table et l'eau tombait en mince filet sur les dalles de ciment soigneusement balayées. À côté de la flaque gisait le pauvre bouquet. « C'est ce misérable chat !» s'écria Madame Fèvre d'un ton courroucé en saisissant les pincettes pour infliger au coupable la punition de son forfait. Mais elle eut beau fourgonner partout, promener son instrument sous tous les meubles et jusque dans la caisse à bois, l'animal ne laissa pas même entrevoir le bout de sa queue. « Il ne perdra rien pour attendre !» dit Madame Fèvre en cessant sa chasse inutile. « Mais regarde donc ta belle rose, Julie !» La fleur penchait tristement sa riche corolle sur sa tige brisée à la naissance du calice. « Votre chat fait vraiment des choses étonnantes !» dit Julie dont les lèvres tremblaient. Puis elle prit dans sa main la pauvrette condamnée à se flétrir avant le soir, la considéra un instant et s'en alla. Chose singulière, Madame Fèvre oublia tout à fait de mentionner cette visite à son beau-frère lorsqu'elle entra chez lui, portant sur un plateau le plus appétissant déjeuner du monde. « Je n'ai rien d'autre à faire qu'à vous gâter, David, lui dit-elle. Demandez tout ce qui pourra vous être agréable. Je veux que vous vous trouviez bien chez moi. » Puis elle s'assit, et pendant que le vieillard dégustait son café, elle le régala de la chronique matinale qu'un comité bien au courant des affaires de la commune venait de rédiger à la fruitière où chaque ménagère allait chercher le lait du déjeuner. Mais de Julie, pas un mot. « Ma nièce n'aura sans doute pas le temps de me faire visite aujourd'hui, » dit l'oncle. Cependant, il s'assit près de la fenêtre avec le secret espoir de la voir paraître. Toute la journée s'écoula dans cette attente. « Mon Dieu, beau-frère !» dit Madame Fèvre, avec cette brusquerie qui passe souvent pour de la franchise. « N'imaginez pas que Julie pense à vous autant que vous à elle. C'est l'affaire des vieux, ça. Mais la jeunesse a bien autre chose en tête. »« peut-être bien, » soupira l'oncle. « Je juge d'après moi, et il me semblait que Julie ne pourrait passer la journée sans me voir. Si j'allais moi-même auprès Berthoux en me promenant après le goûter, » suggéra-t-il presque timidement. « C'est une bonne idée, vous y rencontrerez sans doute Julien, car le jeudi est son jour. » « Ah, je l'avais oublié, » soupira l'oncle. « J'irai demain pour ne pas les ennuyer. » Vers le soir, Madame Fèvre se rappela tout à coup un message important dont on l'avait chargé pour une personne qui habitait à une certaine distance du village et elle pria à son beau-frère de l'accompagner. « Mais Julie viendra peut-être, » dit-il. « Non, puisqu'elle attend son fiancé. D'ailleurs, nous pouvons prendre le sentier des tourbières. » Ainsi, nous sommes sûrs de ne pas la manquer. Mais Julie était déjà au village et tante Judith le savait bien. Elle avait tressailli tout à l'heure en voyant sa nièce traverser la petite place. Au lieu de monter directement chez Madame Fèvre, la jeune fille entrait au bureau de poste où elle pensait trouver une corbeille de prunes à son adresse. Elle voulait choisir les plus belles pour en remplir un petit panier qu'elle offrirait ensuite à son oncle. Cette opération lui prit un certain temps. Puis des amis prolixes la retinrent encore et Madame Fèvre sut fort bien usée de ce retard. Tandis que la pauvre Julie, ayant trouvé visage de bois chez son oncle, redescendait lentement l'escalier, prête à pleurer de désappointement et laissait chez une voisine le petit panier plein de beaux fruits qu'elle aurait eu tant de plaisir à offrir elle-même, tante Judith s'éloignait du village aussi rapidement que le permettaient les vieilles jambes et la respiration un peu courte de son beau-frère. Au retour, ils suivirent le sentier des tourbières. Julie avait pris un chemin qui longeait le pied des pâturages. Ainsi, ils ne se rencontrèrent point et finirent tristement cette journée dans laquelle ils avaient constamment pensé l'un à l'autre. Le lendemain, il plut un déluge qui rendait les marais absolument impraticables. D'ailleurs, l'oncle s'était enrhumé dans sa course du soir précédent et ne pouvait songer à sortir. Il reçut assez tard le cadeau de sa nièce que Madame Fèvre n'osa pas détourner de son adresse, quoiqu'elle en eût bonne envie. mais Julie elle-même ne parut point, retenue à la maison par le mauvais temps, et ses deux journées parurent au vieillard les plus longues de sa vie. Il mit en place son établi, prit ses outils dans le tiroir et essaya de travailler un peu pour se distraire. Mais une oppression pénible le saisissait aussitôt qu'il se penchait sur son ouvrage. Il dut y renoncer et chercher d'autres ressources contre l'ennui. Auprès Berthoux, il y avait toujours quelque chose à faire. Les enfants entouraient leur oncle, demandant des histoires, ou bien c'était une serrure récalcitrante qu'il fallait démonter. Parfois, Julie avait besoin de nouveaux balais de sapin et personne ne les faisait aussi bien que son oncle. Mais au village, le pauvre vieillard était tout dépaysé. Les planchers blancs, les boiseries brillantes lui causaient un indéfinissable malaise. Il regrettait les grosses poutres brunies et le carrelage inégal de la cuisine. Ah, cette bonne vieille cuisine surtout lui manquait, avec son large foyer près duquel il faisait si bon s'asseoir pour causer intimement. La cuisine de Madame Fèvre avait l'air indiscret. Elle était peinte en jaune clair et n'avait pas de recoins mystérieux, pas de dressoir antique. C'était une cuisine vulgaire, bonne pour abriter et servir le premier locataire venu, non pas une vieille amie comme celle du Pré-Berthoux, qui connaissait la famille de l'oncle David depuis des générations. Pauvre oncle David, il ressemblait à un vieux sapin qu'on aurait arraché à sa forêt natale et qui s'efforce languissamment de reprendre racine dans un sol nouveau. Pourtant, il essayait de se redresser et de secouer sa tristesse, se disant qu'un sacrifice accompli en gémissant n'est pas de la bonne sorte. « Julie sera plus heureuse », se répétait-il, et c'était pour lui la meilleure des consolations. Tante Judith faisait l'impossible pour égayer son pensionnaire, et le bon oncle, dans sa candeur, lui savait gré de ses efforts, désintéressé. « Vous êtes pour moi plus qu'une belle sœur, vous êtes une bonne sœur », lui dit-il un jour avec un sourire reconnaissant. Et ce mot la dédommagea amplement de ses peines. D'ailleurs, elle ne perdait pas une occasion de faire valoir son dévouement, mais sans avoir l'air d'y toucher, car ce n'était pas la finesse qui lui manquait. Une nuit, où le vieillard se trouvait légèrement indisposé, elle resta debout jusqu'au matin, et le lendemain, son air languissant, ses yeux battus, son bonnet qu'elle garda tout le jour comme un symbole de migraine, touchèrent considérablement ce pauvre oncle. « Elle en fait trop, se dit-il. Elle se fatiguera outre mesure. Julie elle-même n'aurait pas plus de sollicitude. Mais voyez comment on juge mal les gens. J'avais bien des préventions contre ma belle-sœur. » Tante Judith était bonne cuisinière et souvent quelques petits plats fins paraissaient sur la table. Le vieillard y touchait par complaisance car ses goûts étaient simples. Il avait peu d'appétit d'ailleurs et se sentait chaque jour plus abattu. Mais il s'inquiétait de ses dépenses faites pour lui et pria Madame Fèvre d'augmenter le prix de sa pension. Elle n'en voulut pas entendre parler. Elle rappela même d'une manière si touchante les obligations qu'elle avait contractées envers son beau-frère dans les premières années de son veuvage que le vieillard en fut tout ému. « Je n'aurais pas cru qu'elle s'en souvînt, pensa-t-il, quand j'ai réglé les quelques petites dettes que mon frère avait laissées et que j'ai acheté pour Judith cet excellent burin fixe, elle n'avait pas l'air aussi reconnaissante qu'aujourd'hui, il me semble. Mais les bons sentiments viennent avec l'âge. » En tout cas, si elle persiste à se mettre en frais pour moi, je pourrai toujours l'en dédommager dans mon testament. Quelques centaines de francs ne diminueront pas beaucoup la part de mes neveux. Je suis sûr que Julie ne m'en voudra pas. » Plusieurs semaines s'écoulèrent ainsi d'une façon assez monotone. La saison s'avançait, l'automne, avec ses brouillards au matin et son clair soleil à midi, rougissait les feuilles des sorbiers qui semblaient vouloir rivaliser avec les fruits de corail dont les grives sont friandes. Dans les jardins, les chrysanthèmes et les marguerites, les lourds dahlias aux pétales veloutés étalaient la vivacité de leurs couleurs et ce port robuste qui semble défier l'hiver. Les après-midi étaient magnifiques, tièdes et sereines. Mais vers le soir, l'air fraîchissait et les bonnes mamans assises au seuil de leurs portes s'enveloppaient déjà de châles de laine. L'oncle David ne sortait guère. Ah, il avait bien prévu qu'avec Julie s'en irait la verdeur de sa vieillesse. Faible et cassé, souffrant d'un rhume tenace, il se sentait très changé. D'ailleurs, les remarques des voisins, qui, à bonne intention, il faut le croire, s'extasiaient sur sa mauvaise mine, ne l'auraient pas laissé dans l'ignorance à ce sujet. Il avait voulu un jour s'aventurer jusqu'au Pré-Berthoux, mais il avait eu peine à y arriver, et Julie s'était effrayée de le voir tremblant et courbé, comme s'il relevait de maladie. Dans le village, il n'y avait qu'une voix pour blâmer la jeune fille. Quoique personne ne connût les vrais motifs de cette séparation, on soupçonnait quelques querelles, on s'apitoyait sur le pauvre vieillard, et lui-même dut entendre plus d'une sévère allusion aux ingrats qui se nourrissent de votre pain, s'installent chez vous et vous montrent ensuite la porte. L'oncle défendait sa nièce contre tous, mais Madame Fèvre lui dit un jour « Il faut pourtant reconnaître, David, que Julie n'a pas fait grand-chose pour vous retenir. » Et ces mots résumaient si bien le sentiment secret, inavoué, douloureux, qui lui déchirait le cœur, qu'il dut se retirer précipitamment dans sa chambre pour cacher son émotion. Une situation aussi fausse devait nécessairement porter des fruits d'aigreur. Le fatal malentendu pesait sur l'oncle comme sur la nièce et leur faisait interpréter à contresens chaque incident, chaque parole. Tout leur devenait source d'amertume et d'irritation. Si le vieillard se louait des attentions de Madame Fèvre, Julie voyait un reproche à son adresse. Mais si, à son tour, elle parlait de Julien, qui était maintenant parfait pour elle, le pauvre oncle en concluait que tous deux étaient bien aises de s'être enfin débarrassés de lui. Ainsi, leurs entretiens perdaient toujours plus ce caractère de douce intimité qui les rendait autrefois si attrayants. « Julie n'est plus la même, » pensait le vieillard. Et Julie se disait « On m'a changé mon oncle, il ne s'intéresse plus à moi. » Une muraille s'élevait entre eux et, liés par une déplorable erreur, ils ne savaient comment l'abattre. Dans les premiers temps, Julie était venue souvent chez son oncle, presque chaque soir. Mais comme les travaux d'aiguille, les raccommodages de toutes sortes s'accumulaient dans sa corbeille et que d'ailleurs les jours devenaient courts, elle diminua le nombre de ses visites. Sans bien s'en rendre compte peut-être, elle cédait aussi à une certaine répugnance. Madame Fèvre lui était insupportable. Rien qu'à la voir, elle se sentait devenir méchante. Elle eût voulu lui dire en face qu'elle la trouvait laide, jaune, envieuse, hypocrite et servile. Et à son oncle, qui ne tarissait pas en louanges sur le compte de cette chère belle-sœur, qu'il se laissait entortiller comme... Mais Julie devait réprimer le flot de ses expansions, et le mécontentement s'accroissait ainsi des deux parts. Un soir, enfin, la catastrophe arriva. Julien avait reçu en présent de son frère deux ou trois bouteilles d'excellent Malaga, et il eut aussitôt l'idée d'en offrir une à l'oncle. Ce n'était pas qu'il fût très bien disposé envers celui-ci, il lui en voulait d'avoir quitté Julie si brusquement et sans raison valable, mais pourtant l'ancienne affection subsistait toujours et, la figure changée, l'air triste du vieillard émouvait Julien. Un beau soir, donc, vers 9 heures, en quittant son établi, il entra chez Madame Fèvre, chargé de la précieuse bouteille qu'il laissa soigneusement sur la table de la cuisine. Car Julien trouvait peu modeste de se présenter chez les gens en leur offrant de but en blanc un cadeau. Il préférait n'en parler qu'à la dernière minute et se sauver ensuite sans attendre les remerciements. L'oncle était dans sa chambre, en tête à tête avec l'inévitable Madame Fèvre, et le jeune homme crut remarquer quelque froideur dans l'accueil qui lui fut fait. Peut-être ne se trompait-il pas. Le vieillard se sentait incapable de saluer le fiancé de Julie avec sa paternelle cordialité d'autrefois. N'était-ce pas à cause de lui, de son absurde jalousie, que toute chose s'était si tristement changée? La conversation se traîna d'abord assez péniblement. On parla de la pluie et du beau temps, de la moisson qui venait de finir, du jeune prédicateur qui avait remplacé Monsieur le ministre dimanche dernier, des petits cancans du village, de la cherté des appartements. Madame Fèvre se plaignait beaucoup du sien. Elle le trouvait peu commode, trop grand, trop coûteux. « Pour moi seule, j'aurais bien assez à une chambre et une cuisine, » disait-elle. « Mais alors, il me faudrait congédier mon cher pensionnaire. » « Le congédier, vous vous en garderiez bien. fit imprudemment le jeune homme, après avoir travaillé des pieds et des mains pour l'attirer chez vous. Julien, on le voit, était fort peu diplomate en vérité. Madame Fèvre avait tressailli, mais son trouble ne dura qu'un instant. « En voilà bien d'une autre » soupira-t-elle d'un ton mélancolique et résigné, comme une femme qui a l'habitude de voir ses bonnes intentions méconnues. « Je n'aurais pas attendu ça de vous, Julien. Non, vraiment, pas de vous. Là, je sais bien ce que vous allez dire. Je sais bien ce que tout le village crie après moi. Vous ne le croiriez pas, David. On prétend que je vous exploite, que je suce votre bien, que je me coule la vie douce en mangeant vos revenus. » Comme si j'avais un centime de bénéfice sur votre pension. Je change mon argent, voilà tout. Et ma fatigue, mes inquiétudes quand vous êtes malade, qui est-ce qui y pense? Qui est-ce qui me voit vous soigner comme si vous étiez pique mon propre frère? Le monde est injuste, mais je me laisserai appeler de tous les noms qu'on voudra, avare, sangsue, sanglier, si ça leur fait plaisir. Ou coureuse d'héritage, interrompit Julien. Ce ne serait pas tant mal appliqué. Qu'en dites-vous ? Cette belle apostrophe était une inspiration lumineuse, pensait-il, et devait sur-le-champ dessiller les yeux de l'oncle. Mais l'effet produit fut tout différent. Le vieillard s'était levé avec indignation et, frappant sur la table de sa main ouverte, il dit d'un ton sévère : J'en ai assez entendu, Julien. Si j'ai quitté ma nièce pour me retirer chez ma belle-sœur, que j'aime et que j'estime, c'est de mon propre mouvement. Et toi, Julien, tu as moins qu'un autre le droit de le lui reprocher. Quant à ma petite fortune, jamais il n'en a été question entre Judith et moi. Mais si j'avais l'intention de lui laisser quelque chose, ce n'est pas à toi que je ferais tort, car tu ne m'as pas donné ces derniers temps assez de sujets de satisfaction pour que je pense à faire de toi mon héritier. » Jamais on n'avait entendu cet homme doux et indulgent parler avec tant d'amertume. Toutes les tristesses de ces dernières semaines, les indignations contenues, la douloureuse certitude de s'être attaché à des ingrats, tout ce fiel bouillonnait dans son cœur et voulait s'épancher. Mais le pauvre oncle regrettait déjà d'en avoir trop dit. Après tout, ce garçon, c'était son garçon, le fiancé de Julie, et il ne pouvait se déprendre de l'aimer. Peut-être allait-il corriger par quelques mots moins sévères l'effet de ses premières paroles quand Madame Fèvre vint à la rescousse. Par un procédé à elle seule connu, elle s'était procuré pour la circonstance quelques larmes qu'elle versait avec grand apparat dans un mouchoir à carreaux. « Lui, du moins, me rend justice !» dit-elle en larmoyant. « Mais vous, monsieur Robert, vous me tenez pour une hypocrite !» « Ça, c'est sûr, » répondit-il d'un ton très convaincu. « Une hypocrite et une femme furieusement rusée, voilà ce que vous êtes. S'il y en avait beaucoup de votre acabit sur cette terre, les honnêtes gens n'auraient plus qu'à donner leur démission. À présent, j'ai dit ce que je pense et je me lave les mains du reste. Oncle David, monsieur Dumont, je veux dire, ouvrez donc les yeux une bonne fois pour voir ce qu'on trame autour de vous. » « Assez, » dit le vieillard, et sa voix était brisée comme après un pénible effort. « Assez, Julien, laissez-nous !» On eût dit qu'il avait désappris tout d'un coup le tu familier dont il s'était toujours servi envers le fiancé de sa nièce. « Ma belle-sœur ne trame rien du tout. Je suis venu volontairement chez elle et vous ne rentrerez pas ici avant de lui avoir fait réparation. Après avoir tourmenté ma nièce par votre jalousie, laissez-nous en paix au moins maintenant. » Ce reproche fut très sensible à Julien, qui le savait mériter, sinon dans le sens où l'oncle l'entendait. Il ne trouva rien à répondre et s'en alla fort affligé du triste résultat de sa visite. En passant par la cuisine, il oublia ou dédaigna de reprendre son cadeau. Et quelques minutes plus tard, Madame Fèvre retrouva cette bouteille sur la table où il l'avait laissée. « Hum, Malaga !» fit-elle en lisant l'étiquette. « C'est excellent avant le dîner. Mais si je montre ça à David, il est capable de s'attendrir de nouveau pour un si bon neveu. Je crois qu'il se repent déjà d'avoir parlé comme un homme une fois en sa vie. Je ne veux pas que ce joli vin doux me gâte mes affaires. Ainsi, je vais courir après Julien et lui rendre sa marchandise. » 10 heures sonnaient à la tour de l'église comme Madame Fèvre sortait de la maison. La nuit était noire, sans lune. les réverbères étaient éteints, et si la nocturne promeneuse ne se cogna pas 20 fois la tête contre les murailles, c'est qu'elle avait plus de chance que les braves gens. Dans la direction qu'avait dû prendre Julien, on entendait le bruit de pas qui s'éloignaient. C'était sur cette piste que se hâtait Madame Febvre, le long de la rue absolument déserte. Elle atteignit le jeune homme au moment où il montait le perron et mettait la clé dans la serrure pour entrer chez lui. Il se retourna surpris en entendant des pas et vit Tante Judith debout dans le carré de lumière que projetait une fenêtre encore éclairée. « Tenez, monsieur Robert, dit-elle essoufflée, voici ce que vous aviez oublié chez moi. C'est un petit présent d'amitié que vous vouliez nous faire. Merci beaucoup, nous n'en usons pas. Vous m'appelez coureuse d'héritage, je n'ai pourtant jamais fait à mon beau-frère des cadeaux de Malaga. Il vous envoie ses compliments et vous prie de ne plus vous mettre en frais pour lui parce que c'est de l'argent dont vous ne tirerez pas l'intérêt. » S'il a dit une chose pareille, vous la lui avez soufflée, répliqua Julien dédaigneusement. L'oncle est encore trop bon, malgré vos manigances, pour avoir inventé ça. Allez, tante Judith, si le mal que vous nous faites retombe un jour sur votre tête, vous aurez lourd à porter. En même temps, il se détourna et allait entrer dans la maison, quand Madame Febvre lui cria : Et votre vin, donc, vous n'en voulez pas ? Elle était toute disposée, je crois, à l'emporter pour son usage particulier, mais Julien lui prit la bouteille assez brusquement. « Ce qui est donné, donné, dit-il. Puisque l'oncle le refuse, la pauvre Justine en profitera pour son garçon malade. » Et, tournant le dos à son interlocutrice, il se dirigea vers la maison voisine, où l'on voyait encore une petite lumière briller derrière les rideaux du rez-de-chaussée. Madame Febvre, de son côté, reprit à la hâte le chemin du logis, mais elle n'était pas au bout de ses aventures. « Pourvu que David ne se soit pas aperçu de mon absence, » pensait-elle en cherchant à tâtons le bouton de la porte d'entrée. « Mais non, comme je lui avais dit bonsoir avant de descendre, il se sera tranquillement couché. Pourtant, il y a encore de la lumière dans sa chambre. Je devrais prendre garde en montant l'escalier et camber cette stupide seconde marche qui crie toujours quand on met le pied dessus. » Mais il devait se passer encore beaucoup de choses avant que Madame Febvre montât son escalier. Ayant enfin réussi à tourner le bouton, elle poussa vivement la porte qui résista. Un nouvel assaut n'eut pas plus de succès. « On a donc fermé en dedans, » pensa la dame avec un petit frisson d'inquiétude. Ce n'était que trop certain. Le locataire du rez-de-chaussée, homme méthodique et sédentaire, chargé de la police intérieure de la maison, tournait invariablement la clé dans la serrure au premier coup de 10 heures. Madame Febvre songea d'abord à l'appeler, mais elle se souvint qu'il habitait une chambre ouvrant de l'autre côté, sur le jardin, et qu'il faudrait escalader la grille pour arriver à proximité de sa fenêtre. Il eût été bien facile de faire ouvrir en réveillant l'oncle par une petite pierre lancée contre ses vitres ou par quelques bons coups de poing dans la porte. Mais comment, ensuite, expliquer cette expédition nocturne? À 10 heures du soir, on ne saurait alléguer visite ni emplette. Si David commence à se méfier de quelque chose, il ira jusqu'au bout, pensait très judicieusement Madame Febvre. Avec ça, que Julien lui en a déjà dit assez pour le faire réfléchir. Mais comment est-ce que je vais m'y prendre pour entrer, moi? Je n'ai pas envie de passer la nuit dehors. La cervelle de Madame Febvre était, nous l'avons vu, assez féconde en expédients. Mais que peut toute l'ingéniosité du monde devant ce fait brutal, une porte fermée et point de clé pour l'ouvrir? Provisoirement, la dame infortunée s'assit au bord du trottoir pour réfléchir à sa peu confortable situation. Il faisait froid. Le vent d'octobre, ce premier avant-coureur de la neige, soufflait à travers la rue et secouait les girouettes grinçantes. Il faisait noir et solitaire, et quoique les rues du paisible village ne fussent pas généralement hantées par les voleurs, on avait des exemples d'attentats nocturnes. À cette idée, la pauvre dame crispait nerveusement les doigts autour de sa montre et prenait déjà une attitude militante. Avec la chaîne d'argent qu'elle tenait de son premier mari, avec son anneau d'or et ses boucles de grenat, Madame Febvre était une valeur, elle avait bien sujet de trembler pour ses jours. 10h30 sonnèrent à l'horloge de l'église. « Quel rhume je vais prendre !» soupira la victime de cette fâcheuse aventure. « Moi qui ai la poitrine si délicate !» Et penser que j'aurais pu rester tranquillement chez moi, mettre le Malaga de Julien dans mon armoire et m'en faire du bien de temps en temps sans rien dire à David, car je le connais, il ne l'aurait pas accepté pour lui-même. Mais non, on est honnête après tout. On se donne la peine de sortir au milieu de la nuit, on use ses pantoufles à courir jusqu'à l'autre bout du village et pour remerciement, Julien souhaite que le tonnerre et toutes sortes de vengeances tombent sur votre tête. Voilà comme on est récompensé d'avoir trop de conscience. » Madame Fèvre ne devait cependant pas souffrir beaucoup de ce dernier inconvénient. Mais si le dernier des scélérats est capable de se découvrir des vertus et de s'admirer de bonne foi, à plus forte raison tante Judith qui n'avait tué personne et n'était qu'une femme un peu trop habile. Cependant, après s'être donné le plaisir de repasser en esprit l'histoire de son noble désintéressement au sujet du Malaga, Madame Fèvre trouva que le vent devenait singulièrement frais et qu'il serait grand temps de songer tout de bon à rentrer. « Si j'appelle M. Droz, David m'entendra, » pensa-t-elle. « C'est ennuyeux qu'il ne soit pas un peu sourd. À son âge, on devrait l'être. » En émettant ce charitable souhait, elle se leva, mais un léger frôlement qui se fit entendre tout près d'elle la cloua sur place. C'était comme si des pieds glissaient doucement, chaussés de semelles de feutre. Les yeux démesurément ouverts, Madame Fèvre cherchait à percer les ténèbres, mais aucune forme suspecte ne se dessinait sur le fond noir de cette nuit opaque comme une muraille. « Qui va là ?» fit la dame alarmée, en mettant toutefois dans son interpellation une certaine bienveillance, comme pour se concilier les bonnes grâces de l'invisible passant. Pas de réponse, mais le même frôlement se fait entendre de nouveau, à gauche cette fois. « Ils sont deux !» pensa-t-elle avec angoisse, en couvrant d'une main sa montre, de l'autre son porte-monnaie, et regrettant bien de n'en pas avoir une troisième pour défendre les articles de bijouterie énumérés plus haut. « Qui va là ? » répéta-t-elle en assurant sa voix. « Vous feriez mieux de répondre, qui que vous soyez. Victor, Adolphe, mes garçons, venez ici avec vos pistolets chargés. » Ce belliqueux appel à des défenseurs imaginaires n'effraya pas l'ennemi. Au contraire, il s'avança si près que Madame Fèvre put entendre le bruit d'une respiration passablement bruyante. « Un homme ivre, sans doute » pensa-t-elle un peu soulagée, car il lui paraissait qu'un brigand ne ferait pas tant de préliminaires pour demander la bourse ou la vie. Cependant, en regardant droit devant elle, sur le trottoir, elle finit par distinguer une forme confuse, une masse noire accroupie, semblait-il. Cet être mystérieux, muet, devenait affreusement inquiétant. Plutôt que de passer 5 minutes de plus dans sa compagnie, Madame Fèvre préférait éveiller son beau-frère au risque de devoir tout avouer. Déjà, elle se baissait et ramassait dans la rigole une petite pierre pour la lancer contre la fenêtre lorsque quelque chose se dressa contre elle et saisit les plis de sa robe. Elle poussa un cri auquel répondit un aboiement sonore car l'affreux brigand était un chien. Un chien retardataire, égaré peut-être, ou bien ayant, comme Madame Fèvre, oublié sa clé et condamné à vaguer dans la rue jusqu'au matin. Cet instinct de sociabilité dont les chiens sont pourvus presque autant que les hommes l'avait sans doute amené près de Madame Fèvre qui, en général, n'attirait ni gens ni bêtes. Et maintenant, dans son langage canin, il s'efforçait de lui exprimer sa sympathie. D'abord, de petits aboiements très doux, de tendres jappements, comme s'il s'apitoyait sur leur commune infortune, puis, tout à coup, de grands aboiements à plein gosier. Madame Fèvre s'effraya de cette fanfare intempestive. « Il va réveiller tout le quartier » pensa-t-elle. « Allons, Médor, Bello, Turc, insupportable chien, vas-tu bientôt te taire ?» Puis, essayant de la douceur, elle le flatta sur le dos, car elle pouvait maintenant distinguer assez bien l'animal. Ses caresses n'eurent que trop de succès. Médor, dans un élan de passion, s'élança si affectueusement sur la dame qu'il faillit la renverser. Puis il se dressa contre elle, lui lécha les mains, et, pour finir, fourra sa tête sous le tablier de tante Judith. C'était décidément un chien d'allures excentriques. Peut-être la solitude et l'obscurité avaient-elle momentanément troublé l'équilibre de son cerveau. Toutes ces démonstrations d'amitié parurent suspectes à Madame Fèvre. Si cette bête étrange était un chien de voleur, dressé à enlever la montre des gens. Aussitôt, elle repoussa brusquement le pauvre Médor, qui se vengea en aboyant comme un forcené. « Tais-toi, tais-toi ! Chut, chut !» suppliait Madame Fèvre. « Bon chien, Médor, bon chien ! Ah, si j'avais un brin de morora, comme je t'aurais vite fermé le bec ! Il est enragé, ma parole ! Pour un rien, il se tournerait contre moi et me mordrait !» Cependant, ce solo de « Wah-wah !» quoique brillamment exécuté, devint fastidieux aux voisins. Une fenêtre s'ouvrit de l'autre côté de la rue, on vit paraître d'abord une chandelle allumée, puis un bonnet de coton. Et de dessous le bonnet, une voix irritée demanda ce que signifiait ce tapage, s'il vous plaît. Il y eut même menace de prendre un fusil pour tirer sur les perturbateurs du repos public. « Si on vous assassine, continua la voix, pourquoi n'allez-vous pas chercher la garde au lieu de réveiller les honnêtes gens avec votre abominable chien? Je ferai mon rapport dès demain. » Madame Fèvre, plus morte que vive, n'avait garde de répondre. À toute minute, elle s'attendait à voir la fenêtre de son beau-frère s'ouvrir aussi. « Il faut pourtant qu'il soit un peu sourd, pensait-elle. Ah, quelle nuit, miséricorde, quelle nuit !»